C'est à la question d'un inquisiteur. Andreas s'inclina. Certes, il paraît que Guillaume Imbert n'est pas homme de grande tendresse. Monsieur est adepte de la litote. Le grand inquisiteur de France ne recule devant rien, pas même devant la perspective de torturer une pauvre femme avant de l'envoyer au bûcher. Si vous faites référence à Marguerite Porrette, je ne la qualifierai pas, moi, de pauvre femme, mais plutôt de mystique illuminée, dans le mauvais sens du terme. Toutefois, en effet, cela ne justifiait pas qu'on la brûlât. Il faut à l'Église de savantes pirouettes et de vicieux sophismes pour trouver un lien entre le message d'amour du Christ et la crémation d'une femme. Imbert n'est pas l'Église, monsieur. Imbert est un monstre, plus fanatique que les hérétiques qu'il prétend juger. Ses méthodes sont telles qu'un aveugle jurerait avoir recouvré la vue pour mettre un terme à son supplice. Voulez-vous dire que vos frères et vous n'êtes ni sodomites, ni adorateurs de Satan ? Ironisa Andreas. Jugé par Ponce Pilate, Jésus n'a-t-il pas essuyé lui aussi de multiples faux témoignages, sans essayer de se justifier ? Christ fut accusé de blasphème et condamné à mort alors qu'il avait, comme nous l'avons toujours fait au temple, voué sa vie à Dieu. Je sais que votre barbe est splendide, mais tout de même, après vous être comparé à un chien, seriez-vous maintenant en train de vous comparer à Jésus de Nazareth ?
Je dis simplement qu'il n'était pas plus parjure que nous ne sommes sodomites.
Ouf, vous savez, moi, je ne vois pas la sodomie comme un acte diabolique. Il m'arrive même de la recommander aux dames qui veulent se prémunir contre l'enfantement. Et pour ma part, je préfère grandement deux hommes qui s'enculent à deux qui s'entretuent. Si j'avais dû faire, moi, le procès de votre ordre, c'est bien tout le sang qu'il a sur les mains que je lui aurais reproché et non pas ses mœurs supposées. Nous vivons une drôle d'époque, où l'on sanctifie celui qui égorge allègrement les infidèles et où l'on brûle celui qui pédique. Dans la vitre et à sa grande surprise, Andreas vit que le vieux templier esquissait quelque chose comme un sourire, quand il s'était attendu à le voir choqué par ses propos licencieux. L'homme, sans doute, en avait entendu de pire. Après tout, c'était un soldat. Et sans doute, le drame qu'il vivait à présent lui avait donné sur le monde et la bienséance un peu de recul et d'ironie. L'apothicaire, malgré lui, commença à trouver son interlocuteur moins antipathique. « Dites-moi, Mollet, éprouvez-vous aujourd'hui quelques regrets ?»«
Vous sentez-vous une âme de confesseur, monsieur l'apothicaire ?»«
C'est que l'humain ne me fascine jamais autant que dans ses blessures. La grandeur des hommes ne m'intéresse pas beaucoup, mais ses faiblesses profondément. »«
Parce qu'elles vous rassurent ?»«
Parce qu'elles me touchent bien davantage. »«
Alors, dites-moi... »
« Éprouvez-vous maintenant que le pape et le roi vous ont sali, trahi, abandonné ? Quelques regrets ?»«
Je regrette, mais pour la survie de mes frères seulement, d'avoir refusé que mon ordre fût réuni à celui de l'hôpital. Si j'avais accepté cette demande du pape, Philippe le Bel n'aurait sans doute pas pu obtenir notre dissolution. » »«
Péché d'orgueil. »
Indiscutablement,
avoua le vieux templier. Ma foi, les orgueilleux ont ceci de sympathique qu'ils ont, de fait, une absence totale de jalousie. De nouveau, le vieil homme sembla goûter l'esprit de son voisin.
Mais ce que je regrette pour moi-même, c'est d'avoir cru que la richesse, celle-là même que je cherchais pour les miens, pouvait nous préserver du malheur.
Péché d'avarice ?
« Mammon a des attraits qui font succomber les plus sages, »
s'excusa Mollet. « Pour ce péché-là, j'ai moins de tendresse, » confia Andreas. « Sans doute parce que c'est celui auquel je cède le plus largement. »«
Vous aimez l'argent ?»«
Non, la connaissance. »« Et pour acquérir cette richesse-là, je le confesse, je suis prêt à bien des vilainies. »
Chapitre 36. Morin et Catherine Nouet partirent pour la foire de Montpellier avec leurs trois ouvriers au matin du 2 mars, laissant à leur fille le soin de garder la boutique.